Donc, le sujet de ce début d'après-midi, c'est de parler de toutes les initiatives actuelles ou plus anciennes autour de ce thème assez vaste de l'art libre. Alors, on va privilégier quand même, peut-être un peu plus que ce départ de ce matin où c'était peut-être un peu trop cérémonial. On va privilégier beaucoup plus le, bien sûr, et c'est volontaire, l'échange et le débat d'idées entre nous tous qui, à mon avis, sommes tous de près ou de loin concernés par ce type de sujet. Donc je vais quand même vous présenter les quelques intervenants qu'on a invités pour ce débat. Ils ont tous un petit peu leur spécialité, leur façon de faire, leur position en fait hein, sur ce thème de l'art libre. Je pense que vous tous aussi vous l'avez aussi, chacun avec vos propres approches et on va favoriser justement l'échange là-dessus. L'idée c'est quand même de partir sur une présentation succincte de chacun des intervenants de leurs activités dans ce domaine-là. Qui ont tous vraiment une particularité hein, propre. Il n'y a pas deux, normalement, qui font tout à fait la même chose. Et après, bien sûr, échanger avec chacun d'entre vous. Donc, je vais commencer par Ariel, qui va être celui qui va inaugurer un petit peu le débat, qui se présente comme, un essayiste, un agitateur, multicasquette, qui a écrit... quelques bouquins dernièrement qui sont très axés aussi sur la musique, sur toute cette nouvelle donne sur le monde de la musique, et je pense que tu en parleras largement hein, dans cette présentation. Il y a Bitur et Rico qui font partie de Dogmazic qui ils vous le diront hein, qui rassemblent énormément de d'artistes qui ont choisi de ne pas protéger leurs œuvres ou simplement de les placer sous les licences libres. On développera un petit peu sur ce genre de thématique. Il y a Ben de Veni Vidi Libri qui lui fait partie d'une association qui incite et aide les artistes qui choisissent de franchir la démarche de passer sous licence libre. Donc il nous expliquera un petit peu mieux ce que ça signifie. Et puis Toff, qui représente ici le site et les éditions libres Diogène, et qui met à disposition de la création contemporaine, ou aussi du domaine public, sur Internet. Alors je pense qu'on va commencer avec Ariel, qui peut-être va avoir une vision un petit peu historique, de tout cela, une vision un petit peu plus générale, avant d'arriver dans le détail des licences libres. Et une fois que chacun aura pu exposer sa petite présentation, eh bien, on va largement privilégier, je le répète encore, parce que ça nous a été fait remarquer très justement ce matin, largement privilégier le débat et pas demander avez-vous des questions. Voilà, c'est pas ça, c'est pouvons-nous partager sur ces sujets multiples et variés de l'art libre ? Alors Ariel, je te laisse la parole.
Allô, ça marche ? Bien. Bon, donc, art libre, musique libre. Alors je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Je pense que nos camarades vous détailleront la licence libre qui a été mise au point maintenant il y a presque 9 ans, je crois, hein, par une bande d'artistes dont Antoine Moreau et quelques autres autour d'une mailing list Copyleft Attitude. Inspiré évidemment par l'informatique, la GNU, Stallman et tout le reste, dans l'idée d'adapter la logique donc des licences libres en matière informatique à l'art. Depuis, il y a eu les Creative Commons et beaucoup d'autres. Bon, à mon niveau, je dirais, pour commencer de manière un peu générique et floue, je dirais que aujourd'hui parler d'art libre, de musique libre, c'est pour parler vraiment de façon générique, dire que c'est des musiques, des arts, qu'on est libre d'échanger entre nous, sans avoir de droit à payer, sans avoir à se préoccuper de tel ou tel péage. C'est des musiques, des dessins, des images qu'on peut détourner, qu'on peut sampler, qu'on peut copier. Alors évidemment, après, hein, quand on prend Creative Commons, on peut faire tout ou partie viens de décrire là, sampler, copier, reprendre, détourner, bon. Alors, d'où ça vient tout ça? Moi, j'ai envie de commencer par une toute petite anecdote assez simple. Je veux dire, en février 2001. En février 2001, on est encore dans l'époque de la nouvelle économie. C'est vers on est vers la fin de cette époque, hein. Ça va exploser littéralement quelques mois plus tard. En février 2001, la licence Art Libre existe déjà. Mais très, très, très peu de gens la connaissent. Les Creative Commons n'existent pas. En revanche, en février 2001, ce qui fait parler le Landerneau, ce qui secoue en quelque sorte les institutions, c'est un site américain qui s'appelle Napster. Et il y a ce système d'échange d'ordinateur à ordinateur qui est le peer-to-peer. Alors ça paraît complètement pour aujourd'hui complètement anecdotique, mais à l'époque, lorsqu'on disait qu'il y avait 60 millions de Napsteriens, c'est-à-dire de gens s'échangeant de la musique guillemets hors la loi sans payer de dîmes à la SACEM ou à quelque organisme de droit ou à des éditeurs, bah c'était quelque chose qui semblait déjà scandaleux à bien des institutions, à bien des industries. Et c'était l'époque de Napster qui allait être à ce point poussé procès sur procès qu'en gros il existe encore aujourd'hui mais sous sa forme libre, totalement disparaître. Et donc à l'époque, en février 2001, comme pas mal de gens, j'avais de multiples activités. J'en avais une qui était mon travail alimentaire, qui était une mission que j'avais acceptée pour un site qui s'appelait Pogo.net, financé par Vivendi, qui était un site de dialogue sur l'éthique du net, où le principe était libre parole, justement, de tout type de personnes. Donc on avait à la fois du Richard Pina, des activistes qui prenaient la parole sur ce site, et des cravatés bien propres comme il faut qui défendaient la propriété intellectuelle. C'était un site de débat. Bon. Et le deal à l'époque, donc on était 2000-2001, avec les gens de Vivendi, c'était en gros un projet de Messier pour des bonnes consciences. Hein. Messier qui était encore une star à l'époque. Bon. Et c'était peu après le rachat par Vivendi donc de Universal. Et je me souviens d'un soir, après avoir entendu Messier expliquer qu'il était pour les créateurs contre les pilleurs, en gros d'avoir littéralement craqué. C'est-à-dire que j'en ai eu marre, et j'ai fait un rebond dans l'IB. À l'époque, c'était pas un sujet de débat, en fait, on parlait pas beaucoup, hein, des pirates, etc. Ça montait, et j'ai fait un rebond qui s'est appelé « Sur le net, copier n'est pas volé ». Entre nous soit dit, le texte était de moi, mais le titre était d'un mec de Libé, donc on était complètement dans le libre, hein, qui, alors que j'avais écrit mille fois pire sur Pogo.net sur Internet, j'avais écrit un texte des éloges du pirate, il y avait vraiment des choses qui étaient, je veux dire, on se disait, mais comment ils peuvent accepter ça? Il y avait même eu un texte qui s'appelait Vivendi ou les sept péchés capitaux du capitalisme, au sein même du site financé par Vivendi. Bon. Et là, parce que c'était un rebond dans Libé, en gros, peu ou prou, alors que j'avais respecté le deal, c'est-à-dire j'avais signé en mon nom dans l'IB, moi quand j'avais dealé avec Vivendi, je leur avais dit, on fait une charte, si je la respecte, je veux être libre de faire ce que je veux, et d'exister ailleurs, faire ce que je veux. Et parce que c'était dans l'IB, évidemment, quelques mois plus tard, le site disparaissait. En fait, bon. Et déjà à l'époque, lorsqu'on disait sur le net, copier n'est pas volé, en gros, le propos qui était le mien était de dire potentiellement, un site comme Napster, l'échange de peer-to-peer, c'est un service public potentiellement. Je veux dire, c'est une manière de se partager la musique et ça n'empêchera pas des gens derrière d'acheter. Le seul problème, c'est quand Napster est coté en bourse. C'était en gros mon propos. Et effectivement, c'était aussi une réaction contre les propos de Messier en disant, je veux dire, voilà, quoi, sur le net, copier n'est pas volé, ça veut dire que c'est pas parce qu'on va sampler et copier ou s'envoyer un fichier qu'on va être un voleur. Je veux dire, bon. Comme quoi les débats évoluent pas tant que ça, hein, quand même, hein, avec le temps. Bon, et suite à ce papier qui a été repris un peu partout, Libé faisait son premier dossier sur la question, et ça commençait donc à se lancer. Pour l'anecdote, ce rebond était publié dans Libé, où dans la couve était Cohn-Bendit, qui était accusé pour des pratiques incestueuses. Il fut un temps hippie bien reculé, qu'on ne retrouve jamais, comme chacun sait. Donc, derrière, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ces pratiques, par rapport à assez logique quelque part du libre. Évidemment que ça ne dit rien sur la qualité de l'artiste qui va sampler et détourner. Bon. Mais il y a quelque chose qui pour moi est essentiel à dire, c'est que, vous le savez, là on est dans un environnement un peu gris, mais qui est aussi quand même plutôt vert, l'humain par essence se réapproprie son environnement. Je veux dire, hein, on a mangé végétarien, ça semble assez normal dans là où on est ici, on n'avait pas de McDo, ça semble à peu près logique. On se réapproprie son environnement. L'environnement, pour un urbain moyen, pour un gamin, c'est qu'aujourd'hui, il y a des images et des sons auxquels il ne peut pas échapper. C'était pas le cas à ce point-là, il y a 50 ans, et j'imagine même pas il y a un siècle. Je veux dire. Donc, au-delà même de ce que vont nous dire les majors ou autres, de ce que vont nous dire les studios de cinéma, l'idée de sampler, de prendre les choses, de les montrer, de les échanger, c'est juste que si on ne le fait pas, on crève. Parce que on a besoin de s'approprier l'environnement. Quand j'entends une chanson tout le temps, quand mes gamins entendent une chanson partout, voient des clips sans cesse, s'ils ne détournent pas le clip et l'image, ils deviennent des bœufs. Voilà. Et les bœufs, autant garder les bœufs pour être des bœufs, quoi, les vrais bœufs. Hein, ou les vrais moutons sont plus sympas que les humanoïdes moutonniers. Bon. Donc, il y a une première idée que je commençais à développer à l'époque, qui est de dire, au-delà même de ce que des artistes vont en faire, et au-delà même de pratiques commerciales ou pas, a priori, sampler, détourner, s'échanger, c'est juste vital. Voilà, c'est juste vital. C'est notre environnement. Si on nous interdit de jouer avec notre environnement, on est mort, au moins spirituellement. Donc ça, c'est une première idée. Et c'est pas pour rien que dans le cadre des travaux, des réflexions sur les musiques électroniques aussi, que j'ai pu mener avec beaucoup d'autres, comme Lionel ici présent, de voir qu'un grand nombre de gens, comme par exemple Future Sound of London, lorsqu'ils expliquent ce qu'ils font en matière de musique depuis un moment, cet art du bruit, hein, ce que font les gamins aujourd'hui avec leur ordinateur, de prendre des sons partout, des trucs, de piquer partout pour faire, je veux dire, lorsque vous discutez avec les gens de Future Sound of London, ils disent c'est juste vital, j'ai besoin de m'approprier cet environnement, d'enregistrer des émissions de merde à la télé, pour en faire quelque chose, d'aller chercher des vinyles à la mort moelleux, des CD, tout ce que je veux. En gros, quand il en parle, il n'en parle pas comme juste d'un petit plaisir de rien du tout, il dit « j'avais juste besoin de me créer mon alphabet de bruit en ». Fait, hein. Et c'est ce que font beaucoup de ces musiciens, ils se créent les alphabets de bruit pour le recracher à la façon, le digérer. En fait. Bon. Qu'en pensent après des gens comme des artistes institués? Ben, ça varie. Moi, souvent, aux étudiants, je donne l'exemple de Steve Reich. Le jour où un journaliste l'a interviewé, il lui a demandé s'il était au courant que Viorb, avec Little Fluffy Clouds, qui était un hit, donc des rave parties, des fins de rave, quand Viorb a été, guillemets, quand il a piraté Electric Counterpoint, joué par Pat Metheny à la guitare, de Steve Reich. Il n'était pas au courant. Au début, il s'est dit, mince, il faut que je fasse quelque chose. Le journaliste lui a envoyé le morceau, il a écouté. Il en a parlé à sa maison de disques. Et après réflexion, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il disait, ben, moi aussi, dans mes œuvres, je cite, une de mes premières œuvres, c'était de piquer dans la rue un pêcheur pentecôtiste et j'en ai fait un morceau avec des différences de phase. Donc Steve Reich lui-même, au bout d'un moment, il s'est dit, je voulais faire un process, c'est idiot. Moi-même, je cite. Moi-même, après, il y a des artistes plus ou moins talentueux. Après, il y a des différences. Mais un mec comme Steve Reich a dit, bon, ok, je ne ferai pas de procès. Voilà, je ne ferai pas de procès parce qu'effectivement, c'est une pratique. Je veux dire, au Moyen-Âge, on rejouait des airs connus. Je veux dire, Mozart, dans Don Giovanni, il commence par un pot pourri. Et Mozart, il écoutait une fois un opéra, une chanson, ou un morceau, un titre, il le rejouait à la lettre, tel quel. Je veux dire, donc de tout temps, il y a eu sample. Mais sans le sample, il y a eu collage, il y a eu inspiration, indirect ou direct. Qu'est-ce qui a changé depuis? C'est les moyens. C'est que le morceau que je vais sampler, que je vais détourner et utiliser, potentiellement, il peut faire un hit. Donc on voit bien que la différence, elle n'est pas dans la pratique. C'est juste plus facile. C'est juste, tout le monde peut le faire. Il est dans, après, le potentiel de diffusion. Et éventuellement, la capacité commerciale que je vais avoir à diffuser la chose. Bon, et c'est pareil, je me souviens de Brian Eno qui disait à un moment donné, piquez mes morceaux, samplez-les, si jamais vous faites un hit avec, prévenez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le libre, on n'est plus dans un a priori je vous interdis, je mets un péage, on est dans faites, créez, et a posteriori, on verra. Je veux dire, hein, le mec qui vient ici, et qui se goinfre, et qui a des sous et qui ne file pas un sou, au bout d'un moment, vous auriez envie de le mettre dehors. L'a priori, c'était la liberté. Voilà. Bon. Et lui-même, il sera un peu... j'espère qu'il se sentira... S'il n'a pas de sous, le gars, ou le gamin, et qu'il pille, qu'il prenne, qu'il se fasse une culture avec tout ça. Ou s'il ne peut pas bouffer, qu'il bouffe. Tout va bien. Je veux dire, bon. on se retrouve dans la logique du fair use. Hein, dans une logique, effectivement, où on associe à la liberté une logique, le mot est assez odieux, un peu plus responsable. Bon, c'est cette logique-là. Et cette logique-là que depuis, moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, un grand nombre d'institutions ne veulent pas comprendre. Hein, bon, parce que tout simplement, ça remet en cause leur système économique. Mais cette logique-là, je vais terminer avec ça pour vous laisser la parole à mes camarades, c'est aussi une logique qui correspond à un héritage, qui correspond à une histoire. Je veux dire, hein, et c'est important de le savoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les premiers photocollages, photomontages de Raoul Haussmann, de Dada, c'est du pur sample. Voilà, c'est du pur sample. De la même façon que lorsque Ascarion, peintre Cobra, achète des vieilles toiles, des croûtes infâmes, avec une maison absolument moche, et peint une sorte de canard sauvage dessus, voilà. Bon, bah, on parlait pas d'art libre à l'époque. Mais pourtant, c'est à peu de choses près ce que fait Antoine Moreau avec l'une de ses toiles, où il demande à des peintres, à des tas de peintres, de peindre au-dessus, de peindre au-dessus, de peindre au-dessus, l'un après les autres. Donc c'est des pratiques qui s'inscrivent dans une culture, dans une histoire, qui va même au-delà de l'Occident. Hein, les papiers collés japonais, il y a des tas d'éléments qui peuvent... Donc quand on vous dit, vous êtes juste hors la loi, c'est de la connerie. En revanche, lorsqu'on vous dit... Ben, c'est des pratiques. Des pratiques, c'est des cultures. Des cultures, ça se construit, ça se discute, ça bouge. Et il y a aussi certaines règles, même non dites, et même a posteriori. Oui, ça, évidemment, c'est vrai. Mais en gros, laissez-nous construire. Laissez-nous construire sur cette base-là, sur cette logique qui va suivre son chemin. Voilà.
Je te remercie, Ariel. Juste rajouter un tout petit point des idées qui sont tout à fait intéressantes, c'est la musique traditionnelle. Il n'y a pas plus libre que ça. Et ça, c'est pas au Moyen-Âge, c'est pas hier, c'est pas au début du siècle, c'est tout le temps. Hein. La musique traditionnelle est une pure musique libre où chacun reprend tout le temps des morceaux qui font partie d'un patrimoine collectif et commun.
Il y avait même une ouverture quand au Pakistan vous baladez, les soufis, les Nusrat Fateh Ali Khan locaux. Vous invite toute la nuit, vous pouvez rester, chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut, et il y a évidemment des bœufs comme on n'imagine même pas. Mais c'est là où je dis que quelque part, c'est logique du libre, ça ne veut pas dire je fais tout et n'importe quoi, je veux dire, en revanche, ça correspond à une culture, c'est comme en philosophie, hein, il y a une ligne avec Diogène, Nietzsche, Montaigne, il y a une philosophie, guillemets, qui n'est pas la philosophie du pouvoir. Il y a la philosophie de Platon, Descartes et autres. Je veux dire, on est dans des mondes où il y a des multiplicités de philosophies, et c'est pas parce qu'on vous dit la loi, c'est ça, hein, il faut marcher droit, il faut payer le péage avant, que vous ne vous situez pas dans une tradition qui, effectivement, va de Diogène à Dada. Et c'est à vous de la choisir, en plus, tradition. Chacun mettra ses références. Moi, je mets les miennes. Donc, je parlerai plutôt de Raoul Haussmann ou d'Ascariorn. Bon, ou de Steve Reich et de beaucoup d'autres. Chacun mettra les siennes après. On peut trouver dans sa culture des éléments d'héritage.
Voilà. Je vais passer la parole, en fait, à Ben. Je pense que ce serait le bon moment. Parce qu'en fait, on va se rapprocher petit à petit de l'histoire des licences libres, un petit peu en fait de l'idée des licences libres dans l'art, et je veux pas encore centrer tout de suite sur la musique, hein, avec Dogmazic. Je vais passer la parole à Ben, on s'est pas du tout concerté, hein, c'est pour ça que je vais peut-être une surprise, peut-être à Toff après, Toff qui fait aussi du partage général dans l'art, et puis on finira sur Bitur et Rico, plus sur la musique avant d'échanger. C'est vrai que la musique, c'est un des sujets les plus cités, hein, dans l'art libre, et c'est pour ça que peut-être Ben va encore un petit peu généraliser avec les textes, avec autre chose aussi. Donc Ben de Veni Vidi Vidri.
Voilà, bonjour. Donc je suis aussi utilisateur de licences libres, et là je vais pas parler en tant qu'utilisateur, donc c'est notre vision qui est moins intéressante, quoi, moins facile d'approche, mais très intéressante finalement. Donc je fais partie de Veni Vidi Libri, une association créée il y a à peu près 2 ans, les statuts déposés il y a 1 an. On est issu de la communauté Framasoft, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés sur Framasoft. Framasoft est un grand site sur lequel on rencontre plein de monde qui a envie de partager. Je simplifie. Et on s'est aperçu que finalement les licences libres, peu de personnes comprenaient ce qu'il en était, comment ça marchait, à quoi ça servait. Peu de personnes comprenaient comment marchait le droit d'auteur, le droit des artistes-interprètes, le droit des producteurs, de phonogrammes, de vidéogrammes, et j'en passe. Beaucoup de questions qui se posaient. Au final, on jetait tout par la fenêtre en disant de toute façon c'est trop compliqué, nous la loi on veut pas l'appliquer, c'est bien plus simple d'y aller à la route, on fait comme ça. Et on s'est dit, bah tiens, essayons de mutualiser un peu nos connaissances, essayons de mutualiser un peu les recherches qu'on fait de chacun de son côté. Et on a créé Venividi Libri. Donc c'est ce qu'on fait, c'est promouvoir les licences libres, donc essayer d'expliquer et de rendre accessible au maximum de personnes ce que peuvent être les licences libres. Donc on a un wiki, un site collaboratif sur lequel n'importe qui peut intervenir. En pratique, c'est principalement nous, l'équipe. Et on a des, bon, c'est toujours agréable, des rectifications qui sont faites par les personnes les plus concernées, qui peuvent voir un article sur leur licence ou un article sur un sujet qui les concerne, auquel ils veulent rajouter quelque chose. Donc ça permet de perfectionner toutes nos connaissances. Donc voilà, ça c'est le site, en gros, une vulgarisation du libre, du fonctionnement du libre, des licences libres, donc ces contrats juridiques qui permettent de mettre une œuvre sous licence libre. On explique comment ça marche. On essaye aussi de faire une explication de la façon dont on peut utiliser ces licences et les différents cas concrets dans lesquels on peut se retrouver. Par exemple, ça c'est ici de notre travail dont je parlerai après, mais on a déjà été contacté par un prof qui voulait savoir comment faire pour mettre sous musique, quoi, sous licence libre, un projet de ses élèves. Donc ça peut être documentaire, ça peut être de la musique, ça peut être des images, ça peut être plein de choses. Alors c'est bien, mais les élèves ils sont pas majeurs. Comment on fait? Comment ça marche? Comment marche le droit? Comment marche les licences? Est-ce que c'est déjà été pensé? J'ai eu des bon ça c'est le genre de questions qu'on peut avoir. Ou par exemple j'ai eu un photographe qui fait le tour du monde, qui prend plein de photos, des photos sublimes, des photos de personnages. Il arrive, il me dit, bon, bah, c'est bien beau, moi, j'ai pris de super photos, je veux les mettre sous licence libre, je veux les partager, je veux que les gens puissent les voir, les transmettre, les modifier même. Par contre, sur les photos, j'ai des petits enfants, j'ai des personnes, c'est le folklore traditionnel, quoi. C'est vraiment intéressant, mais il y a peut-être un droit à l'image. Comment ça marche? Bah, nous, on essaye de faire ces recherches et de, bah, justement, de donner les réponses et après mutualiser ces réponses ces questions et leurs réponses qui peuvent se poser. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur le wiki, avec quelques interviews qu'on est amené aussi à faire auprès de personnes qui ont choisi les licences libres, qui ont voulu, qui veulent bien donner leur témoignage. Ça, c'est le plus visible. De façon beaucoup moins visible, on a un travail à flux tendu où on essaye d'aller voir les auteurs ou les développeurs, donc pour les logiciels, et de leur expliquer ce que peuvent être les licences libres, ce que ça peut apporter à leur logiciel, comment ça marche et comment ils peuvent mettre leur logiciel sous licence libre ou leurs œuvres, ou ça peut être... Je donnais l'exemple tout à l'heure des photos, je donnais l'exemple du professeur. Donc ça, c'est notre deuxième, c'est même notre principal travail, c'est d'expliquer comment ça marche. Et nous-mêmes d'aller voir. On a des personnes qui viennent, qui nous disent, bah, tenez, moi, ça c'est plus pour les logiciels, mais je connais tel logiciel qui est bien, qui est freeware, il est gratuit. Le développeur, il est tout seul, il est là, flux tendu, il peut plus, quoi, il veut arrêter. Ben, nous, ce qu'on fait, c'est, on va le voir, on a une personne qui connaît le logiciel, donc qui nous fait un peu le lien entre nous et le développeur principal. On va le voir et on lui dit, ben, voyez ce que les licences libres pourraient apporter. Nous, on vous aide, on vous explique comment faire, comment ça marche. Et après, on essaye de faire la promotion, notamment sur Framasoft. Voilà. Et le support aussi aux auteurs, je suis fort, là, non? Non. Le support qu'on fait auprès des auteurs, c'est toujours la même chose, c'est savoir comment ça marche, ils sont utilisateurs de licence, ce que ça peut leur apporter et toutes les questions qui peuvent se poser auxquelles on est susceptible de répondre. Donc par exemple, je suis l'SACM, comment ça marche, je veux faire une compile de musique sous licence libre, comment je fais, c'est plein de questions qui... On a tendance à pas se les poser et à se dire c'est trop complexe, mais finalement se les poser et essayer d'agir, quoi, de faire quelque chose de cohérent. On peut pas ne pas respecter les licences libres. C'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Quand quelqu'un met son œuvre, sa musique, son image sous une licence libre, on peut pas dire bon bah c'est sous licence libre, j'en fais ce que je veux. Non, l'auteur il consent à partager ses connaissances. En retour, il veut le respect des quelques obligations qu'il a imposées. Par exemple, que la future œuvre ou la future création qui a utilisé sa propre création, elle-même soit libre. Si l'auteur le demande, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? C'est la seule chose qu'il demande. Parfois, il demande juste d'être cité ou que les DRM ne puissent pas être utilisés ou quoi que ce soit. Je pense que c'est bien. Pour être crédible, il faut qu'on respecte les licences. C'est les seules contraintes des utilisateurs, quoi, des personnes qui consentent à mettre leurs œuvres sous licence libre. Et à mon avis, c'est utile de les respecter. Voilà, j'ai fait le tour. On intervient un peu à droite, à gauche. Donc là, pas besoin de citer, mais c'est, on a parlé tout à l'heure des licences art libre. C'est pareil, la dernière version, la 1.3, la licence Art Libre, est parue récemment, on y a participé. Il y a des choses qui avancent, et donc nous, on essaye d'être dans le vent et de favoriser tout ce qui peut être favorisé. Voilà.
Merci Ben pour cette petite présentation. Je pense qu'on va à un moment plus vraiment se concentrer sur ce que c'est que ces licences libres. Peut-être qu'on développera un peu plus, mais je pense que tu vas rester aussi tout le long du festival pour participer largement à cette diffusion et ce partage autour de ça. Je voudrais passer à Toff, donc des éditions libres de Diogène, pour que tu nous expliques un petit peu quelle est ta qu'est-ce que tu réalises avec ce site et quels sont tes enjeux et tes volontés.
Bon, alors bonjour. Donc je m'occupe d'un site d'édition libre qui s'appelle diogène.ch. Il a débuté en 99. En fait, c'est au moment où sur internet ça devenait possible de faire circuler des images et du son. C'est-à-dire qu'il y avait encore les modems 56K, la DSL était naissant, et c'était le moment où on pouvait commencer à diffuser de la BD libre et un peu de musique. Donc ce que je voulais préciser, c'est, enfin il l'a déjà dit Ariel, c'est le libre, c'était une vieille histoire. Enfin, Diogène est un peu né du fait qu'avant je faisais du fanzine, on faisait du fanzine gratuit, et l'idée c'était qu'il y avait une grosse production de fanzine gratuit qui s'est fait dans les années 80-90, et ça faisait beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de trucs cool en fait, qu'on n'avait pas accès parce que ça sortait dans une ville précise ou dans une région. Et avec Internet, on pouvait scanner tout ça et mettre à disposition, et du coup, ça devenait de l'art accessible à tous en permanence. Donc, il y a un gros potentiel de choses qui sont déjà produites et qui sont inconnues de tous parce qu'elles sont juste sorties dans une petite ville ou dans une région. Donc voilà, ça c'est la base de Diogène. Et il y avait aussi au niveau musique, il y avait à l'époque les mods, c'était de la musique avant les MP3. Et bon, maintenant ça a complètement disparu, mais enfin à l'époque on mixait sur une radio, une web radio, ce genre de musique, on allait pêcher tout ce qu'on trouvait sur internet et ensuite on faisait des mix, et de ça est née la première banque de données de musique qu'on a mis sur Diogène. Et ensuite, donc depuis, on développe le site, bon, tranquillement, parce que ce qui est libre est pas forcément, il n'y a pas un moteur financier ou un gros moteur derrière. Mais donc petit à petit, on a développé sur tous les arts libres, donc bande dessinée, écriture contemporaine. Alors au début, on a développé les écrits anciens, parce que donc vous le savez, après 70 ans, les arts deviennent dans le domaine public. Donc on a essayé de rassembler une bibliothèque d'écrits du domaine public. Mais bon, il y a beaucoup d'autres sites qui le font, et mieux que nous en fait. Nous, on a d'ailleurs plutôt piqué les œuvres qui nous intéressaient dans le domaine public pour les rassembler dans notre bibliothèque. Et donc maintenant, on essaie de développer les arts contemporains. Donc on a quelques auteurs qui sont parfois d'ailleurs publiés dans des maisons d'édition plus commerciales, qui font aussi des textes dans le libre. Et puis on a pas mal d'auteurs qui font que du libre, que ce soit en musique, techno, et aussi donc dans l'écrit, il y a différentes choses. Il y a Cost, qui fait aussi d'ailleurs de la musique. Enfin voilà, il y a différents types d'auteurs que je vous invite à découvrir en allant sur diogène.ch. Et encore peut-être une dernière chose. Donc oui, nous pour les licences, en fait le truc c'est qu'on a adhéré aux licences, mais Diogène existait quasiment déjà, vu que c'était en 99, la LAL elle était naissante, il n'y avait pas les copyleft, tout ça. Nous on a adhéré au truc parce que c'est logique quoi, enfin je trouvais juste bien qu'il y ait un cadre légal, un truc qu'on faisait depuis très longtemps, qui était de faire de l'art libre mais sans licence, sans cadre légal. Et le fait de pouvoir mettre un cadre légal, ça permet de protéger un peu contre les requins, en fait. Donc contre ceux qui veulent faire du fric avec le libre ou avec ce qu'ils trouvent. Et donc un dernier truc, c'est je fais aussi un groupe de musique, d'ailleurs qui jouera demain, Mycelium. Et donc on a aussi fait le choix tout de suite de faire du libre. Vu que nous, on fait que des samples, donc toute la base de la musique, c'est justement, comme disait Ariel, de prendre tout ce qu'on trouve dans notre environnement sonore, notamment aussi enregistrer les émissions de télévision de merde pour avoir les petites phrases qui tuent. Et du coup, on a donné tous nos samples, donc nous on donne toute notre musique, on donne aussi tous les samples qu'on a utilisés pour que d'autres puissent faire d'autres musiques à partir de nos sons. Et je pense que c'est ça d'ailleurs la logique de la musique électronique, c'est on prend, on modifie, et de toute façon toute création n'est toujours que la redigestion de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a pris. Donc voilà, c'est ça, je pense aussi le libre, c'est une vieille tradition, et là on fait que la perpétuer et finalement la légaliser avec Internet et ce formidable outil en fait qu'est Internet, qui permet de donner sans limite, sans frontières sur la planète entière, des arts, des textes, de la musique, tout quoi. Voilà.
Ouais, merci Toff. Il y a un truc intéressant dans ce que tu disais et qui est très proche de mon expérience et de l'expérience de beaucoup de gens d'entre nous, c'est que le passage aux licences libres qui s'est fait après, c'est finalement la continuité d'un truc qu'on faisait depuis très longtemps, quoi. Hein, donner sa musique, de pas la mettre à la SACEM, de pas chercher à la protéger avec les moyens traditionnels. On parlera sûrement de la SACEM à un moment ou à un autre. Et finalement, ça, voilà, c'est un moyen de légaliser le truc, un moyen assez sympathique finalement. De montrer un contrat pour dire ben allez-y, servez-vous, et un contrat qui en plus s'inscrit ben, dans le droit, etc. On va finir ce rapide tour de cercle, de demi-cercle, avec l'association Dogmazic, l'association Musique Libre, pardon, et le site dogmazic.net, donc avec Bitur et Rico, je sais pas qui intervient, dans quel ordre.
Bon ben, on va commencer par moi alors. donc je suis président de l'association Musique Libre, dont les objectifs sont tout à la fois de promouvoir la musique sous licence de libre diffusion, donc ce qu'on appelle de manière un petit peu comment dire schématique musique libre. Et donc notre association existe depuis 2004. Mais ça faisait depuis 2000-2001 qu'on était en train de s'investir dans cette approche de la musique qui consiste avant tout à réapproprier aux auteurs leurs œuvres, parce que dans le système classique, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé, la gestion des droits, c'est le fait de la gestion collective. Donc quand on est à la SACEM, c'est la SACEM qui met l'artiste quelque part sous tutelle et qui bien gentiment lui gère ses droits. Donc l'idée, c'était de voir s'il n'y avait pas, avec ces licences qui venaient d'apparaître dans le domaine artistique, la possibilité de permettre aux artistes de se réapproprier leurs œuvres. Et c'est justement par cette réappropriation de leurs œuvres que ceux-ci ont pu et peuvent toujours les transmettre le plus facilement possible dans un cadre très précis mais très simple à la fois au public. Donc entre 2000 et 2003, ben, nous avons essayé de rencontrer finalement les acteurs qu'on avait repérés sur des sites internet ou sur des forums de discussion, comme ce monsieur là-bas, et tous les acteurs français du libre. Et donc en 2004, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même de plus en plus d'artistes et de plus en plus de collectifs ou d'associations qui partageaient ces valeurs-là. On a décidé donc de monter une association dont le but était de fédérer un petit peu, ou du moins de permettre le débat entre ces différentes tendances dans lesquelles dans de la culture libre. Donc à partir de là, on a monté un site qui a tout de suite mis l'accent sur la pluralité des licences, parce qu'on s'était rendu compte qu'entre l'an 2000 effectivement et la licence art libre, une myriade de licences était apparue qui avaient des visions différentes finalement des cadres de diffusion de la musique. Tout à l'heure, Ariel évoquait les licences Creative Commons, notamment, avec un cadre de diffusion, avec peut-être plus de restrictions que les licences copyleft qui autorisent, par exemple, l'utilisation commerciale de la musique. Donc, à partir de là, il y a des différentes tendances qui se sont manifestées et des débats parfois houleux ont pu avoir lieu entre les tenants de licences un peu plus restrictives et les tenants du libre tel qu'il existe depuis le logiciel libre. Bon, nous, on a décidé de dire, ben, écoutez, toutes les licences, on les accepte sur le site. Et donc, on a ouvert, à partir de 2005, une archive de musique libre qui, finalement, s'autogère par les artistes qui déposent eux-mêmes leur musique et qui accueille aussi des labels de musique libre. Parce que dans l'approche qu'on a donc de la musique libre, on a aussi une approche économique de la musique libre. C'est-à-dire que il est, enfin, du moins, dans notre état d'esprit, le libre, ça peut être aussi une économie autonome, solidaire, bien entendu, et qui pourrait finalement s'autosuffire au bout d'un moment. Bon, on n'en est pas là. Hein. Je parle de plan sur la comète, mais c'est un petit peu le fondement du truc. Donc, depuis 2005, depuis que l'archive est ouverte, on accueille, on a à l'heure actuelle plus de 1500 artistes et 150 labels qui diffusent leur musique sur le site, ce qui fait un volume d'à peu près 15 000 morceaux qui sont librement téléchargeables, mais selon des conditions précises qui sont spécifiées par les différentes licences. Donc c'est aussi dans notre idée le fait de d'avoir une certaine pédagogie par rapport au public, aux mélomanes, de manière à ce qu'ils puissent être sensibles à ce que l'artiste l'autorise à faire, quoi. Parce qu'effectivement, comme c'était évoqué tout à l'heure, la générosité, ok, mais s'il y a rien en retour, bon, voilà. Donc, c'est effectivement des choses qui sont assez complexes, mais si on peut simplifier, il y a des artistes qui autorisent l'utilisation commerciale et d'autres qui ne l'autorisent pas. Il y a des artistes qui ne veulent pas qu'on modifie leurs œuvres, ou du moins qui veulent qu'on leur demande l'autorisation pour le faire. Donc, les vraiment les différences fondamentales entre ces approches, c'est à peu près ces champs-là, quoi. Il y a des artistes qui ont très peur que l'on fasse du commerce sur leurs œuvres. On peut arriver à le comprendre. Dans la communauté des créateurs du site Dogmazic, il y a beaucoup de musiciens. La sensibilité sur la propriété de nos propres œuvres, on l'avait déjà. Donc c'était quelque chose qui était un quotidien pour nous. Donc pas trop difficile d'imaginer que ces différentes tendances puissent exister. Voilà, donc à peu près pour situer ce que c'est que Dogmazic, c'est un lieu d'échange, entre des artistes, un public de mélomanes. C'est un lieu aussi d'expérimentation, c'est un lieu de réflexion sur comment la musique libre peut exister concrètement, parce qu'elle définit un cadre légal, et ce cadre légal, dans les faits, il n'est pas du tout appliqué. En France, la gestion collective a un monopole de fait. La SACEM a un monopole de fait. Ce n'est pas un monopole de droit. La gestion individuelle des œuvres, elle est possible, mais elle n'est pas du tout effective. Elle n'existe pas. C'est-à-dire que quand un artiste en gestion individuelle veut récupérer des droits d'auteur, il en a tout à fait le droit, mais ça n'arrive jamais. Donc, il y a des interrogations qu'on peut avoir là-dessus. Pour résumer, la démarche d'un artiste qui est en libre diffusion, c'est une démarche qui refuse la notion d'exclusivité. Les œuvres peuvent circuler, elles peuvent circuler partout, elles peuvent être même vendues dans plusieurs endroits différents, par différentes plateformes, et donc il n'y a plus cette notion où on a signé pour une structure, un label, une maison de disques, et un organisme de gestion unique, etc. Donc là, il y a vraiment fondamentalement quelque chose qui, en même temps, est nouveau vu la situation actuelle, et en même temps est antérieur à la gestion collective. En fait, on n'a pas, disons que la gestion individuelle, c'est ce qui existait avant que la SACEM arrive, et la SACEM s'est créée justement pour lutter contre les abus. Donc le cadre des licences de libre diffusion, ben c'est une aubaine pour ces artistes qui veulent se réapproprier leurs œuvres, parce que là justement il y a un texte précis qui va dire, ben voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez pas faire ça, et ça c'est fondamental, et c'est voilà, vous pouvez télécharger ces œuvres-là, mais vous n'êtes pas des pirates à ce moment-là. Donc bon, effectivement, oui, ça, c'est, dans l'idéal, s'approprier n'importe quelle œuvre, c'est ce qui fait fonctionner la culture, c'est son moteur, c'est sa respiration. Mais en même temps, des artistes qui sont conscients que leurs œuvres leur appartiennent, c'est pas encore ça. Il y en a une petite minorité qui en a pris conscience. Et c'est cette petite minorité-là qui s'accroît, qu'on représente, qu'on essaie de soutenir finalement par notre action. Donc dans notre action, il y a aussi cette envie de militer pour cette gestion individuelle des droits d'auteur et pour que ce cadre légal validé par le code de la propriété intellectuelle en France notamment, bon, enfin, et dans d'autres pays par d'autres codes de propriété, puisse exister dans les faits. C'est l'étape dans laquelle on est. Maintenant, on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus d'artistes qui ont choisi ces options-là. Mais dans les faits, ces artistes, quand ils passent à la radio ou à la télévision, bah, ils touchent rien. Certains d'entre eux ne veulent rien toucher. C'est tout à fait leur droit, puisqu'on représente à peu près ces deux mouvances d'artistes. Hein. Il y a des artistes chez nous qui s'en foutent, mais royalement, de recevoir une quelconque royalty. Mais il y en a d'autres qui... aimerait bien faire de la musique leur activité principale. Donc voilà, on n'a pas envie de privilégier les uns pour oublier les autres. C'est ces deux mondes là qui se rencontrent un petit peu sur notre site et qui échangent, qui débattent et qui la plupart du temps finalement s'entendent bien malgré cette différence d'approche. Donc voilà, enfin en gros, pour résumer, il y a une éducation à faire auprès des artistes parce qu'ils sont pas forcément conscients de ces problématiques et finalement ils sont pas forcément conscients de leur du fait que leurs œuvres leur appartiennent et aussi cette comment dire. Il y a aussi des artistes qu'on représente qui eux ont non seulement parfaitement conscience de tout ça et décide d'être totalement dans la générosité et dans le partage et refuse toute rétribution quelle qu'elle soit. Voilà, donc bon, c'est pour situer un petit peu l'angle un peu dans lequel on est, quoi. Quelle communauté on représente sur le site, quoi. Voilà, donc peut-être que
Est-ce que tu voulais rajouter peut-être un mot là-dessus, Bitur, ou c'est pour la présentation, ça te semble...
Est-ce qu'il marche celui-là, non ?
Je voulais pas rajouter quelque chose là-dessus, mais simplement sur le ce qu'est actuellement, enfin pourquoi le droit devient tellement important. C'est parce qu'il y a une sorte de terrorisme intellectuel exercé par l'économie, par les catégories de l'économie, qui font que toute chose, tout bien, toute œuvre peut devenir une marchandise. Et à ce moment-là, il faut savoir qui va avoir le pouvoir et la maîtrise dessus. Et dans toute l'histoire du droit d'auteur qui s'est créé avec les libraires, éditeurs qui au XVIIe avaient un monopole absolu, qui eux avaient le contrôle des œuvres des auteurs. Il y a 2 ans, j'avais lu un article d'un universitaire américain sur l'open source, le copyleft et tout ça. Il avait titré ça « Redresser le writing copyright », remettre le droit d'auteur à l'endroit, redresser le copyright. Et pour moi, le copyleft, c'est tout simplement le droit d'auteur à l'endroit. C'est-à-dire redonner à l'auteur la primeur et la place qui lui revient de droit comme auteur de ses œuvres, de savoir ce qu'il va en faire. Le modèle économique normal, que ce soit, enfin pour la musique particulièrement, mais pour d'autres choses aussi, c'est que c'est la maison de disques ou l'éditeur qui est propriétaire des masters, touche sur un morceau, sur un CD ou sur un morceau vendu sur Internet, l'éditeur touche 60%, l'auteur en touche entre 3 et 4, 5. Et c'est tout simplement de se donner des outils juridiques adaptés naturellement à Internet et aux nouveaux supports de diffusion et de partage qui permettent de gérer de manière acceptable pour tout le monde, c'est-à-dire d'abord les auteurs et puis le public, et aussi dans la mesure où ils sont à leur place, les intermédiaires. Mais les intermédiaires ne ont toujours tendance à prendre une position maximale, il faut toujours les remettre à leur place. Voilà, il y a eu...
Oui, oui. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en termes historiques, hein, sur les droits d'auteur, il y a à peu près 3-4 siècles, les droits étaient au théâtre. C'est les propriétaires de théâtre qui avaient tous les droits, par exemple, sur les pièces, ou aux libraires, ou aux éditeurs. Et tout le système de droits a été créé dans une logique qui est de se dire « Donnons plus de pouvoir à l'auteur sur son œuvre » en tant qu'auteur, et faisons en sorte après que les œuvres puissent être diffusées dans une logique guillemets de service public, c'est-à-dire beaucoup plus large. Et toute l'histoire du droit d'auteur est un équilibre entre trois logiques, qui est la logique du, on va dire, du bien commun, hein, qui était dès le départ dans les logiques de Beaumarchais lorsqu'il s'est battu pour le droit d'auteur, logique de l'auteur et logique du diffuseur, qui au début de ces débats et de cette création du droit d'auteur à la française, avait en gros à peu près tous les droits sur les œuvres, qu'il s'agisse effectivement du théâtre ou autre. Hein, donc voilà, c'est juste. Et effectivement, c'est un combat permanent entre ces trois acteurs pour qu'il y ait un équilibre. Et c'est vrai qu'on est arrivé aujourd'hui dans un déséquilibre total par rapport, on va dire, à qui va pouvoir réellement, on va dire, utiliser les œuvres. Et comment ?
Voilà, donc en fait, vous ont été présentés ici quatre approches, quatre expériences particulières autour de cette notion d'art libre. Et en fait, ce que nous souhaitions, c'est savoir si parmi vous, il y avait des gens qui voulaient aussi faire partager leur propre approche, leur propre expérience, ou rebondir sur certains des sujets qui ont été abordés durant cette petite présentation. En fait, le micro, hein, c'est pour un enregistrement pour les radios, hein, c'est pour ça qu'on s'astreint à faire ça avec le micro.
D'accord. Je vais essayer de parler dans un micro.
Merci.
Moi, je m'appelle Armin, je fais partie avec des amis d'un groupe qui s'appelle le groupe d'activation de la gratuité. Et pour moi, il y a un aspect de la culture du libre qui a été exprimé, il y en a, et un autre qui est très peu exprimé, enfin, qui n'a pas beaucoup de place ici, en tout cas, qui sont des gens qui travaillent sur la contestation des logiques marchandes et du coup de la logique de consommation, même y compris de la consommation d'une œuvre. Enfin, pour moi, ça fait partie de la culture du libre. Et du coup, qui vont travailler, qui vont admettre un cadre non légal, qui vont admettre le vol ou le pillage comme des pratiques autonomisantes pour l'instant, enfin, qui s'adaptent à la société dans laquelle on est, quoi. J'avais plein de trucs à dire.
Prends ton temps.
Alors, je sais pas si vous connaissez des gens qui pratiquent le don à l'étalage, par exemple, qui est un peu. J'en parle au cas où personne connaît, où c'est un peu l'inverse du vol à l'étalage. Le vol à l'étalage, tu vas prendre quelque chose de l'étalage, et le don à l'étalage, tu vas donner quelque chose à l'étalage. C'est-à-dire, généralement, tu vas mettre une étiquette pour dire que c'est complètement gratuit, et bah comme ça, arrivé aux caisses, la caissière et le consommateur entre guillemets sont surpris de ce qu'ils ont dans les mains. Et ça a été développé par des Américains au départ qui faisaient de la musique électro et qui arrivaient à enregistrer des disques eux-mêmes, mais qui arrivaient pas à les diffuser, et donc qui se sont servis des étalages des marchands et des grandes surfaces pour diffuser leurs œuvres. Après, il y a pas mal d'autres pratiques qui peuvent s'associer, qui sont des gens qui vont prendre des produits, les transformer et les remettre dans l'étalage, ce qui fait que des fois on peut trouver des boîtes de dauphins dans les supermarchés à côté des boîtes de thon ou des transformations comme ça différentes. Et je pensais, et alors du coup, enfin, par rapport aux gens qui sont dans ces pratiques là, il y a l'idée de sortir de l'économie, y compris d'arrêter même de voir le don comme une économie, et du coup de penser le libre et la culture du libre sans condition. du coup, ça remet en question des fois, enfin, ça peut remettre en question le rapport à la licence, vu qu'il y a l'idée dedans de libérer aussi une œuvre de son auteur et des conditions que pourrait mettre l'auteur à sa diffusion ou à sa à son exploitation entre guillemets. Et du coup, enfin, la plupart de ces gens-là, en gros, une fois que t'as fait une œuvre, elle existe en tant que telle et elle est libre aussi de toi ce que t'aimerais en faire. Du coup, si même les requins entre guillemets la récupèrent et tout ça, bah c'est dommage. Mais à la rigueur, tu t'en fous quoi. Ils vont se faire de la thune avec et pas toi, mais à la rigueur, tant pis quoi. Je pensais, enfin moi, je fais remonter un peu la culture du libre aux Diggers de San Francisco, qui ont ouvert les premières zones de gratuité, qui ont inventé le concept de ville libre. Et qui faisaient des rituels d'enterrement de l'argent, c'était des gens bien. Et eux, une fois, une des zones de gratuité, il y avait une femme qui venait tous les jeudis, je sais pas, enfin tous les chaque jour de la semaine, et elle prenait une caisse de fringues pour aller la revendre à la, je sais pas, c'était une brocante, enfin un truc d'habits d'occasion au coin de la rue, quoi. Et quand ils ont vu son petit manège, parce que tous les jeudis, elle venait prendre une caisse quand même, quoi. Ils ont essayé de discuter avec elle et de lui dire, bah attends, nous, on essaye de libérer de la marchandise et toi, tu la remets dans le circuit marchand. Et elle a juste dit, mais attends, c'est gratuit ou pas? Et ils ont dû reconnaître que oui, quoi. Et ceux qui avaient créé une zone de gratuité à Paris, la première zone de gratuité qui était en 99... ils ont vu un jour une camionnette arriver, le gars est sorti, il a dit tout est gratuit, ils ont dit bah oui, bah il a tout pris, il l'a mis dans sa camionnette. Et enfin, pour moi, ça fait partie de la gratuité et ça fait partie de la culture du libre. À un moment, d'admettre, si on est dans le libre, on est aussi dans le sans condition, et du coup très souvent en dehors des cadres légaux. Et voilà. Et donc, pour tourner ça un peu sous forme de question, moi j'ai l'impression, par exemple sur le site, enfin, pour moi la culture du libre, même si effectivement elle a une histoire, on est en train, là, en ce moment, on est aussi en train de la construire. Le fait que ce soit la première teuf du libre, entre guillemets, ça participe à la construction de cette culture. Du coup, pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas de mainmise idéologique sur ce que c'est ou ce que pourrait être le libre. Et bah parfois j'ai l'impression que c'est, alors un petit détail qui tue par exemple pour moi, c'est quand il y a des panneaux sur les bars avec écrit le libre c'est pas gratuit. Pour moi on a déjà une lecture de ce que pourrait être la culture du libre et on oublie que le libre ça peut aussi être le gratuit, que ça peut l'inclure. Et du coup, juste, enfin, par exemple, dans le choix des intervenants ou dans vos propositions, pour moi, il y a quelque chose. C'est pas une critique, c'est juste pour.
Ouais, peut-être question. Par rapport à cette petite phrase, j'en ai déjà discuté avec certains des troglos, notamment. Elle peut être comprise dans l'autre sens, à savoir que le libre, c'est pas gratuit pour celui qui vient chercher quelque chose. Le prix libre, c'est pas gratuit, mais c'est pas gratuit pour celui qui partage quelque chose. Aussi. Mais... Et ça peut être pris dans l'autre sens. Ça peut être totalement gratuit de la part de celui qui prend quelque chose, un verre de bière, mais ça ne l'est pas du côté de celui qui te donne le verre de bière non plus. Ça c'est sûr.
J'entends ce que tu me dis.
Donc d'un côté comme de l'autre, l'équation se lit dans les deux sens. Et c'est pour ça. Et ça peut être 0 francs, euro ou je sais pas quoi. Mais ça peut tout à fait être un prix libre qui ne soit pas un prix, ou qui ne soit pas donné, rien de donné. Mais c'est pas gratuit de toute façon. Il y a eu quelque chose qui a fait que c'est pas gratuit.
J'entends ce que tu me dis et je suis d'accord avec toi. Enfin, j'admets le fait que tout a un coût. Mais par exemple, le fait de l'écrire ou de le dire, pour moi, ça donne une lecture de la culture du libre. Ça, disons, ça l'oriente quelque part. Et du coup, voilà. Enfin, ma question, c'est en gros, quelle place on se donne ou quelle place vous donnez ou quelle place on laisse à cet autre aspect de la culture du libre qui peut être en dehors des négociations avec les institutions, en dehors du rapport à la consommation, en dehors de l'emprise des auteurs sur leurs œuvres et voilà, enfin en dehors de tous les rapports de pouvoir qui peuvent être.
Ça garde forcément une place primordiale. Je veux dire, lorsque au début de la revue de l'International Situationniste, il y a écrit Vous pouvez refaire tout ce que vous voulez avec ces textes. On vous encourage à les copier, les détourner, les piller, les distribuer. A priori, ils ont demandé à personne de le faire, à aucune institution. Il est, à mon sens, légitime que dans une culture qui elle-même est multiple, est un conglomérat de culture en construction permanente avec des tas d'influences diverses, il y a à la fois des gens qui se disent « essayons de cadrer pour quelque part tisser un compromis avec la société », ce qui est inévitable, puisque je veux dire, a priori, on doit acheter à bouffer, on peut se débrouiller autrement, mais en tout cas, voilà. Et d'autres qui disent, sur un tas de mes pratiques, je vais refuser tout compromis, je vais créer un autre système, une autre logique, je vais faire du don à l'étalage, etc. C'est-à-dire, tant que la même graine partout présente, c'est légitime et même plus que positif qu'il y ait une multiplicité de pratiques du libre, avec ou sans licence, avec ou sans nécessité de tisser des compromis avec une institution ou une autre. C'est-à-dire, ça paraît totalement logique, hein. Je veux dire, bon, et les pirates eux-mêmes avaient des règles. Les grandes traditions pirates, hein, il y avait des règles parfois non dites. Il y a eu parmi les pirates, les vrais pirates, hein, dans les Caraïbes et autres, des gens qui ont quasiment inventé la démocratie, alors même qu'on était dans les royautés anglaises. Donc, de tout temps, si tu veux, il y a un jeu complet entre le refus des règles et la construction de nouvelles. Je veux dire, hein, c'est une notion de la démocratie comme un flux, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite des pirates et des hors-la-loi. D'ailleurs, donc tout ça ne pose, à mon sens, aucun souci. En tout cas, on n'a même pas à se la poser, d'ailleurs, la question.
Et moi, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce qui a été dit sur la gratuité. Il a pas mal parlé d'objets. Donc soit de bouffe libre, de vêtements libres. Là, comme on parle d'art libre, le truc c'est que les objets, une fois qu'on les a donnés, on les a plus. Alors que l'art libre, une fois qu'on en a donné, on en a encore. Ça veut dire que sur Internet, quand vous copiez une musique, la musique elle disparaît pas. C'est juste que vous en avez deux fois et trois fois. Donc c'est pas comme les objets où une fois que c'est parti. Donc quand même la gratuité dans la musique, c'est facile. Enfin même la base de la musique, c'est qu'elle est gratuite, quoi. C'est que après qu'on cherche un échange peut-être financier pour aller plus loin ou faire autre chose. Donc c'était juste pour bien différencier que, enfin là en tout cas on parle des arts libres, quoi. Donc à la base quand on donne un texte sur Internet, il peut se diffuser à 1 million d'exemplaires, ça coûte rien.
C'est juste l'idée de ce qu'on appelait les biens rivaux et non rivaux, hein. Un bien rival et un non rival. Un bien non rival, une connaissance, lorsque je la partage, je la perds pas. Ce pull, si je le donne, je le perds. Je peux choisir de le faire, de faire comme ça. Hein. Mais c'est effectivement ce qui est quand même à la source de l'explosion dans l'univers des musiques, de l'informatique, de ces logiques-là. C'est qu'effectivement, un bien non rival, de quel droit on m'empêcherait de le donner alors que je le garde si je le donne. Voilà.
Je peux intervenir rapidement aussi, juste sur pareil, toujours sur le même sujet. Je pense que quoi, il faut bien avoir en tête que bon, la plupart, parce que c'est vrai que dans l'art c'est un peu différent, mais la plupart des licences libres sont à économique. Elles sont pas gratuites, elles sont pas non économiques, elles sont à économique. Il n'y a pas de rapport à l'économie. En fait, le principe c'est dire moi auteur, j'ai des droits sur ma création. Ce que je fais c'est j'ai partage. Moi l'auteur et tous les utilisateurs, on sera à égalité. On sera à égalité. Il n'y aura pas de prérogative de l'un plus forte que celle que les autres pourraient avoir. C'est le principe des licences à l'origine. Dire il y en a un qui a plus de pouvoir. Ce qu'on veut, c'est rétablir l'équité, l'égalité. Après, maintenant, l'autre peut vendre comme le premier pouvait vendre, et ainsi de suite.
Une remarque de Lionel aussi.
Oui, juste sur les, enfin, en intro, sur les règles du vol, si j'ose dire. Moi, je me rappelle dans mes jeunes années, quand j'étais dans un centre système, si tu veux pas être un crevard, il faut que tu te donnes des règles, y compris quand tu voles. Et nous, on décrétait qu'on avait le droit de voler le gasoil, la nourriture, point barre. C'est comme ça. Sinon, après, parce qu'on estimait que c'était nécessaire à faire notre activité. Donc là, bon, on bricolait un système idéologique, on va dire. Et puis pour le reste, et j'ai connu des copines à moi se faire engueuler parce qu'elles avaient piqué une culotte dans un magasin. Et ça, on vole pas des vêtements. Gasoil, oui, mais pas des vêtements. Bref. Mais sur la question de la musique, on fantasme tous sur l'idée de gagner de l'argent sans travailler. Et la propriété intellectuelle, quelque part, elle s'est aussi bâtie sur ça. Je fais quelque chose, ça va me rapporter de l'argent de façon indéfinie, sans que je bosse. Et peut-être que le saut qu'il faut faire pour les musiciens, c'est de se dire, ben non, je vais gagner ma vie quand je vais être en spectacle, quand je vais proposer un service, une prestation aux gens, et en soi, je gagnerai pas ma vie en faisant rien. c'est un vrai sacrifice, hein. Surtout qu'après, il y a tout un discours. On dit oui, mais tu comprends, avec mes royalties ou mes droits d'auteur, mes droits SACEM, je peux créer, je peux ceci, je peux cela. Bien sûr. Sauf que au nom de cette idée qui est pas idiote, il faut savoir que sur les 20 euros de l'album, il y a seulement 2 euros qui tireront à toi et 10 euros qui iront au producteur, au machin, au truc et au bidule. Donc peut-être faut-il faire ce réel sacrifice de dire je gagnerai pas ma vie le cul dans ma chaise uniquement en vendant des disques, c'est-à-dire pour un travail que j'ai fait avant, mais je gagnerai ma vie uniquement quand je bosserai, c'est-à-dire que quand j'offrirai à des gens un spectacle. Et c'est déjà très important.
Je crois qu'il y a une remarque aussi de Sylvain, qui fait partie de Tsunami Wazari, un groupe de musique libre.
Alors bonjour. Alors je m'appelle Sylvain. Donc je gère un label qui diffuse en musique libre, qui s'appelle Aldente Records. Et en fait, moi je voulais un peu intervenir un peu à l'inverse de ce qu'a dit le monsieur qui prône un peu la gratuité entière de tout ce que de tout ce qui est un peu étiqueté libre. Donc déjà en fait nous on est venu au libre parce que donc on était assez branché informatique et pour dire les choses clairement on piratait pas mal donc nous on mixait en soirée tout ça et on piratait sur Emule, Napster au départ et tout ça. Et quand on s'est mis à faire de la production, vraiment à créer nos morceaux, on a dit de toute manière si les gens veulent pirater, qu'on soit à la SACEM ou pas, ça changera strictement rien du tout. Donc autant le mettre directement en musique libre et que chacun puisse partager, copier la musique comme il le souhaite. Ensuite, on est quand même on est arrivé quand même à un compromis à l'heure actuelle où on essaye de rentrer un minimum dans une économie. Donc on est pas mal critiqué par certains. Je dirais assidus très forts des licences libres. En fait, alors déjà, pour dire par rapport à ce qu'on disait que créer de la musique c'est facile, il y a juste à réfléchir et ça sort tout seul. Alors je pense que certains le savent, mais c'est un boulot énorme déjà de gérer un label, de sortir des morceaux à peu près corrects au niveau du mastering, tout ça, de tout ce qu'il y a derrière, gérer un nombre d'artistes qui n'est pas forcément très volumineux, mais quelques artistes et tout ça. Donc nous dans le label, tous les artistes ont un boulot en dehors de la musique, mais on estime que, donc c'est forcément plus facile, mais on estime chacun que tous les investissements qui sont faits au sein du label, payer le serveur pour héberger nos morceaux et tout ça, tout doit être autofinancé par le label. C'est-à-dire que personne injecte d'argent personnel. Ce qui veut dire déjà, donc il y a une égalité parfaite entre ce que, enfin par rapport au métier de chacun et tout ça. Et donc nous on arrive plus ou moins quand même à s'auto-financer. Donc c'est surtout les soirées qu'on fait qui nous financent. Et ensuite on est arrivé depuis peu à se faire distribuer en format numérique sur internet. C'est-à-dire que les gens vont payer. Ils vont estimer que la musique leur plaît assez pour payer. Et télécharger de la musique qui est libre, qui donc après vont pouvoir distribuer gratuitement autour d'eux, et même qu'ils auraient pu venir télécharger sur notre site gratuitement. Mais certaines personnes vont estimer que le morceau peut mériter d'être payé. Bon, c'est sûr qu'on gagne pas des 100 et des 1000, faut pas se voiler la face. On a plus fait ça dans l'objectif de dire après on peut le faire même en étant en licence libre, on peut plus ou moins rentrer dans une économie qui pourrait pourquoi pas à terme être autosuffisante pour un artiste ou quoi. Mais bon, nous on estime qu'il y a quand même un boulot à faire des morceaux. Bon, faut acheter du matériel, il y a tout ça, il y a le boulot derrière de gestion. Et donc on estime que si certaines personnes veulent payer la musique, et ben qu'ils la payent. Et ensuite, donc comme nous on a une licence qui est restrictive, enfin on met nos morceaux sous licence Creative Commons by NCND. Ça veut dire by qu'on est obligé de dire à qui est l'auteur de cette musique. NC c'est non commercial, c'est-à-dire que personne a le droit de diffuser, enfin de servir commercialement de nos morceaux sans notre autorisation. Et ND c'est non dérivatif, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de modifier nos morceaux. Donc ça c'est surtout une idéologie artistique quoi. Qu'on aimerait pas qu'on fasse n'importe quoi de nos morceaux, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que on peut aussi avoir l'autre aspect du livre, et tout en distribuant gratuitement nos morceaux, aussi gagner de l'argent dessus, quoi. Voilà.
Donc, on voit bien qu'il y a des expériences très différentes autour de cette notion d'art libre. Avec des choix qui quand même sont quand même pas mal tranchés hein, dans certains cas malgré tout. Peut-être que là la question c'est de savoir si tout cela fait partie d'une seule et même famille. Moi je le pense. En tout cas qu'il y a un mouvement derrière. Il y a une volonté quand même. Il y a toujours le mot malgré tout, même malgré les non dérivatifs, malgré les non commerciaux, etc. Il y a toujours le mot de gratuit qui revient à un moment. Il y a toujours le mot d'appropriation possible de l'œuvre qui revient assez souvent. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, moi en tout cas ce que j'estime personnellement, très restrictives et qui malgré tout limite pas mal quand même hein, cette notion de d'art libre dans ces différentes expériences. Est-ce que quelqu'un a encore peut-être quelque chose à partager, une autre expérience ou un autre ou des questions ou envie de rebondir sur un de ces sujets qui vient d'être tu peux prendre le micro devant là. Ouais.
Oui, je vais me reparler un peu parce que j'ai pas l'impression d'avoir été compris. En fait,
je pense que tu as été fort bien compris, je pense, hein, mais t'en prie.
En tout cas, personne m'a répondu, du coup, je vais essayer de reformuler ma. Ouais, désolé. En fait, pour moi, quand on se pose la question de la liberté ou du libre, il y a un moment où on peut quasiment pas mettre de mots devant. Quand on dit prix libre, il y a un truc pour moi qui est antinomique, même si on dit économie libre ou même si on dit art libre. En fait, j'ai été confronté une fois à des institutionnels de... je sais plus c'était quel conseil général, qui m'avait sorti cette phrase qui disait « L'art naît de contraintes et meurt de liberté ». Et du coup, spontanément, ça m'a fait penser que moi, vu que c'est la liberté qui m'intéresse, et ben là, je m'en fous, et pourvu qu'il crève, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup dans nos pratiques, on oublie ce vers quoi on va ou ce vers quoi on tend. Je pense pas que la liberté ce soit un état absolu et définitif qui existe comme un paradis qu'on va atteindre un jour, mais je crois que dans nos pratiques quotidiennes, on peut être en train de se libérer, on peut sortir de ces carcans, sortir de ces contraintes, et dans ce travail-là. Il y en a qui tentent de sortir des rôles, et le rôle d'artiste, c'est un rôle social qui engendre des oppressions, qui engendre des rapports de pouvoir aussi. On tente de sortir des rapports de gestion, de marchandisation des rapports ou des relations humaines. Et enfin voilà, il y a quelque chose pour moi, si on tend vers la liberté à un moment, il faut inclure dedans une remise en question ou une critique, y compris de la culture, parce que enfin une culture aussi ça peut devenir après un vecteur d'oppression, comme des enfin j'ai, donc je voulais pas dire je suis pas quelqu'un qui prône, enfin j'ai pas envie de prôner quoi que ce soit, je prône pas la gratuité à tout va ou je suis pas l'apologue de d'un radicalisme du libre, mais enfin j'ai envie que associé au mot libre, il y ait une remise en question un peu voilà des rôles et des rapports qu'on lui rattache et qui lui semble inhérent ou obligé. Je pense pas que ce soit le cas. Mais...
Peut-être même c'est au niveau de la notion de l'art aussi que tu verrais quelque chose à modifier profondément. Peut-être que c'est pas des pratiques autour de l'art, peut-être que c'est carrément l'art en lui-même qu'il faut redéfinir dans ce que tu proposes. Ce qu'on entend de l'art.
Juste que pour la fin de l'art, comme les situationnistes qui ont eu des artistes pendant 4 ans chez eux étaient pour la fin de l'art, parce que tout le monde deviendrait artiste, donc il n'y aurait plus statut d'artiste en tant que tel, puisque tout le monde serait artiste. Hein, bon, c'est l'autre et amont.
Oui, mais enfin, justement, là, le problème, c'est que rien que pour en parler, on est obligé de prendre des références historiques, de parler. Même maintenant, le situationnisme, c'était un courant, c'était une expérience passée qui s'est fait récupérer, qui est critiquable par ailleurs. Du coup, moi, je me pose la question de comment on peut sortir des tiroirs, des étiquettes, des licences, des rôles ou des même y compris des milieux quoi, que ce soit milieu situ ou milieu du livre.
Oui, mais j'ai fait cette référence parce que ton discours était très empreint quand tu parles de rôle, quand tu parles tout ton discours par rapport à la marginalisation est très empreint de cette idée guillemets de ces idées là. Hein, c'est bien pour ça. Mais après, pour revenir par rapport à ce que disait Guillaume, je pense que s'il y a, on va dire, un point commun global à tous ces gens-là, tels qu'on les entend, c'est une remise en cause de la notion classique de propriété, quel que soit d'ailleurs l'objet en question, et notamment les objets numériques, mais bien plus largement que ça. C'est que la logique classique de la propriété et de son a priori, hein, je veux dire, ça appartient à un auteur, à un diffuseur, à un éditeur, qui va dire, vous n'avez pas le droit de faire ceci, cela, et rien n'est possible sans moi. C'est cette remise en question-là qui fait, on va dire, le ciment de cette culture-là. Après, effectivement, entre une pratique et une autre, entre quelqu'un qui, effectivement, refuse les dérivés et quelqu'un qui les accepte, quelqu'un qui dit, mais samplez-moi comme je veux, ou quelqu'un qui va, au contraire, encourager la chose, il y aura bien évidemment des différences. Je veux dire, ce qui fait que, y compris le musicien qu'on a entendu, fait partie du monde du libre, c'est qu'effectivement, il est dans une logique aussi de don, de gratuité, d'un rapport à la propriété qui n'est pas le même que, on va dire, la façon dont on voudrait que les artistes l'exercent dans une sorte de doxa dominante.
Oui, moi je voulais rajouter quelque chose par rapport à savoir jusqu'à quel extrémisme on va dans la gratuité ou dans le libre, etc. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que quand je sors de chez moi, 95-98% des gens, ils sont dans le système capitaliste, consommation, achat, business, tout ça. Et donc après, les discours internes, c'est entre gens qui on a déjà beaucoup réfléchi sur la gratuité, la liberté, on a déjà eu plein d'expériences qui fait que certains font des choix extrêmes, d'autres des choix moins extrêmes. Ça, c'est des trucs presque des querelles de famille, je trouve. Et que ensuite, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le large public, quoi, ma réalité quotidienne, qui est faite de tous ces gens qui ne savent même pas qu'on peut donner des trucs, qu'on peut échanger, qu'on peut vivre autrement, etc. Et je trouve que les arts libres, c'est une super porte très simple et très efficace pour toucher le large public, quoi. Et donc, c'est comme les querelles de chapelle entre les différentes licences, etc. Tout ça, c'est des trucs de famille et de spécialistes. Et moi, je trouve que l'approche un minimum commercial ou d'être, en tout cas, de rester en contact avec la société, c'est pas plus mal, quoi. Moi, je suis un adepte de m'éloigner le plus possible du monde, de la société, du système et de tout ce business. Mais je sais que si je m'enferme dans mon ghetto, à côté, la société, elle va avancer et au bout d'un moment, elle va me bouffer, quoi. Donc, il faut que je continue à au moins dire, à trouver les moyens de toucher les gens qui, eux, ne connaissent que la télé, la radio commerciale, et ils ont juste Internet, ils vont faire clic-clic. Et je crois que là, il y a une porte, justement, où ils cherchent de la musique, ils cherchent des trucs, et là, nous, on peut s'insérer et dire qu'on existe, quoi. Sinon, on n'existe nulle part. D'ailleurs, ici, on peut voir, il y a personne qu'on voit au supermarché tous les jours. Enfin, on y va tous, mais je veux dire... Il n'y a pas la société commerciale classique qui est présente ici. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, quoi. Pour moi, l'important, c'est de toucher les gens qui sont loin de nous et de pouvoir leur ouvrir cette porte de la gratuité, du don. Ça leur pose quelques questions, quoi.
Et pour rebondir, c'est que moi, je pense aussi qu'on a besoin d'une multiplicité de logiques, d'une multiplicité d'approches à partir de la même graine. Exemple concret, mon bouquin Techno-Rebelle est sous licence libre en Espagne. Bon. il n'est pas en France. Je dirais, à l'époque, en 2002, lorsqu'il est sorti de Noël, qui dépend de Gallimard, c'était même pas la peine d'en parler, il savait pas ce que ça voulait dire. Après, je suis revenu à l'attaque parce que j'avais un éditeur espagnol qui voulait l'éditer en licence libre. Bon. Et pour le coup, ils l'ont édité en licence libre, en Creative Commons. Il y a une chose qu'ils ne pouvaient pas accepter. C'est-à-dire, bon, déjà, il a fallu parler à l'aéropage de juristes de Gallimard, leur expliquer ce qu'était cette logique-là, parce que c'était en 2006. Ils ne savaient toujours pas ce que ça voulait dire et ce qu'il y avait derrière. Il faut juste se rendre compte dans quel monde on est. Hein, c'est qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Bon, il a fallu leur expliquer. Bon. Et ils ont, au final, parce que pour moi, c'était une question de... Voilà, ils n'avaient pas réussi à l'éditer ailleurs, ok. Donc dans ce cas-là, je reprenais mes droits, l'intégralité, j'étais prêt à le faire en pirate. Parce que mes textes sont diffusés gratuitement partout. Bon, mais pour le coup, ils l'ont accepté officiellement parce qu'il y avait tout était permis, sample, dérivation, diffusion gratuite, etc. Il y a un truc qu'ils pouvaient pas accepter de là où ils étaient, c'était le commercial, c'est-à-dire la distribution commerciale de que tout le monde pourrait prendre le bouquin dont Gallimard avait les droits, et faire en sorte qu'il puisse être diffusé, quelqu'un pourrait le prendre, un autre éditeur, et le vendre lui aussi. En fait, c'est ça qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre le vende en tant que tel. Bon, est-ce qu'il vaut mieux accepter ce compromis ? Parce que globalement, ça va permettre à d'autres gens d'avoir accès à ces idées-là, à des tas de choses. Ou est-ce qu'il vaut mieux au contraire refuser sous prétexte de purisme ? C'est-à-dire, pour moi, je peux décider de tout mettre en libre mes trucs, etc., en tant qu'individu, et de faire du don d'étalage que j'ai fait aussi, etc. Mais s'il s'agit de faire en sorte que le maximum de gens puissent accéder, en gros, d'ouvrir à un tas de gens qui, effectivement, pour beaucoup, ne savent même pas ce que ça veut dire, banco, on y va. On a besoin de la multiplicité des regards, des approches, institutionnelles comme non institutionnelles, pirates comme non pirates, et c'est parce qu'on aura toutes une logique, une envie, un désir, et qu'on aura envie de la pratiquer chacun à notre façon, dans les contextes qui sont les nôtres et qui sont différents, parce qu'un contexte de musicien qui fait du spectacle, un contexte de quelqu'un qui vend des vêtements, tous ces contextes artistiques n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc si on s'enferme dans une logique puriste, on va au mur. C'est-à-dire, on fera encore le vieux système gauchiste. Et pour moi, à mon avis, c'est pas la peine, quoi. Ça a déjà fait son temps. Essayons de préserver cette graine qui peut être subversive et autre, avec une multiplicité de démarches, radicales ou non.
Y a-t-il peut-être d'autres...
Juste à rajouter que, une chose radicale ou non, je dirais que de toute façon, cette démarche, par quelque côté qu'on appartienne au libre et qu'on décide d'utiliser ou de produire, de créer, de partager des œuvres libres, il y a de toute façon là-dedans une radicalité fondamentale qui est celle, déjà, de reconnaître qu'il s'agit d'un échange et d'un partage, et que ce ne sont pas des choses, des œuvres, des biens dont on pourrait prétendre ou s'imaginer qu'on a une maîtrise sur elles. On a une maîtrise sur rien. La seule chose à la limite sur laquelle on a une maîtrise, c'est la possibilité de se déprendre et d'aller les uns vers les autres et de tendre la main. Le don, il y a les don contre don, et tous ces dons-là, c'est une des sources fondamentales, une des racines fondamentales de toute l'histoire humaine, dans toutes les sociétés de partout. Et l'argent, l'économie et ça sont intervenus après dans d'autres modes, mais ils sont inscrits de toute façon dans un système qui est d'abord celui d'un échange. Il y a économie, il y a argent parce qu'il y a échange. Et pourquoi il y a eu échange d'abord? Parce qu'il y a eu un don et un contre-don. Et c'est déjà cette radicalité-là qui est fondamentale, qui est partagée diversement par différents collectifs avec différentes visions. Mais c'est vrai, sur ce querelle de famille que disait Toff, je trouve que il y a un linguiste danois du CERN de Copenhague qui s'appelle James Leff, et j'ai trouvé une phrase de lui que je trouve fabuleuse. La terminologie est une question de goût, elle ne touche pas aux valeurs. C'est-à-dire qu'on peut, bien sûr, accorder aux mots, les mots sont importants, on peut accorder aux mots et aux visions qu'on a une importance, mais il faut savoir que c'est d'abord une question de goût. Parce qu'on est d'abord des êtres de chair qui sentent, qui jouissent, qui peinent, et c'est d'abord ce goût qui a à apercevoir, c'est là qu'on a un travail aussi de critique des choses à faire, c'est d'abord le goût qu'on a à faire les choses. Et à ce moment-là, on peut là-dessus seulement greffer des valeurs, des discussions, des principes et tout ça. Mais d'abord, il y aura ce lien commun qui permet de reconnaître l'échange, la production d'œuvres et d'autres choses comme une cause commune.
Quelqu'un encore peut-être ? On va.
Oui, là-bas. Allez, file un peu court.
Ouais. Et du coup, des histoires d'éditeurs et compagnie, je sais pas. Pour moi, du coup, si tu veux faire un truc libre, tu le mets soit physiquement, toi, ton stand avec ta boîte à sous, et si tu veux faire ça internet, tu vas faire c'est libre à téléchargement libre. Si tu veux faire un bouton marqué clic, donation, voilà, très bien quoi. Et du coup, on n'a pas besoin d'éditeur ou de système de copyleft ou rien, ou de branlette académique ou et de tout ça quoi. C'est plus simple pour moi quoi.
Ne pas avoir d'intermédiaire pour transmettre ton œuvre toi-même.
Ouais, en gros. En gros, ouais quoi. Si tu veux faire ton truc libre, tu le fais de toi. Parce que ce que je viens de dire en fait quoi. Après l'histoire de la diffusion, c'est toi qui vas le faire aussi. Si tu veux toucher un large public, ça va être ton problème, enfin ton travail à toi aussi quoi, d'aller diffuser. Je dis pas flyer, faire de la pub quoi, mais
juste
ouais, on n'a pas besoin d'éditeur quoi.
Un commentaire là-dessus, je sais pas si tu voulais dire aussi qu'on n'avait pas besoin de licence libre, c'est ça non?
Ouais.
Oui voilà.
En gros c'est ça ouais. En fait c'est un peu le DIY. L'esprit DIY, ce qui bon un truc d'anarcho-punk, je sais pas quoi, le DIY, donc, pas d'inter do it yourself, donc DIY do it yourself, donc pas d'intermédiaire et pas besoin de se faire régir par un éditeur ou et mais pas besoin de copyleft du tout en fait quoi.
Deux commentaires là-dessus. Bon, le premier c'est que si tu mets pas de licence quoi, si tu dis pas les droits que tu confères rien. C'est-à-dire sur internet tu mets ta musique, bon on admet que si tu la rends disponible les gens auront l'écouter, mais ils auraient pas le droit de le copier chez eux. Alors tu vas me dire oui, mais dans ce cas c'est pas grave, moi je vais pas aller porter plainte, c'est bon, il fait ce qu'il veut, je dirai rien. Ok, mais l'utilisateur il a aucune certitude que jamais toi ou une autre personne du groupe dirait attendez non moi je bon le groupe il me fait chier, il se barre en colère, il dit je vais tous les mettre dans la merde, je vais dire écoutez moi mes droits d'auteur j'ai revendique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auront la musique jusqu'à là n'avaient pas le droit, elles sont contrefactrices. Et elle l'avait pas dès le début, hein.
Ouais, mais non, mais c'est libre, quoi. Y a pas de droit d'auteur, rien. Tu donnes, si tu veux te faire sampler, ou, altérer le texte, ou le faire diffuser par n'importe qui, le faire altérer,
Mais autant le dire. Et dans ce cas, si tu le dis, tu mets une licence. La licence le dit, en fait. La seule chose, c'est que c'est du bricolage. Pour la licence libre, c'est que du bricolage. On est dans une société qui avait une vision autre de la propriété intellectuelle, quoi, des créations. Et, y en a qui ont dit non, moi, ça me correspond pas. Ce que je fais, je vais mettre dans un contrat, quoi, je vais écrire comment moi je vois le partage de mes créations. C'est ça, mais c'est une licence.
Ouais, en fait, non, enfin, je vois pas la licence pour protéger. Pourquoi protéger ? Pour que c'est libre ou c'est pas libre ? Si tu veux protéger, c'est pas libre, quoi. Enfin. Oui, mais c'est pas besoin de licence pour dire c'est libre, quoi. C'est donc, débile, quoi.
Ouais, mais la licence, elle ne protège pas. Une licence libre ou dans différents mouvements, éléments de la culture du libre, établir un mode d'échange, c'est comme une sorte de règle du jeu.
Ouais.
Après, certains peuvent l'utiliser, d'autres ne l'utilisent pas. C'est simplement par rapport aux règles non dites ou de base et aux règles positives actuelles. De plus en plus extrême, à une volonté de réaction pour rester dans un cadre de diffusion et d'existence sociale, si on veut, mais qu'il n'est absolument pas incompatible avec les démarches, que ce soit de don à l'étalage ou de. Il y a aussi des musiciens qui font des trucs sous licence libre, il y en a qui c'est fuck SACEM, fuck copyright, no copyright, anti-copyright, il y a tous les. Non,
en fait, je comprends pas le besoin, quoi, et je sais pas de quoi on a peur du tout, quoi.
Ouais, en fait. C'est pas une peur, c'est une.
Je vois pas le besoin du tout, quoi.
C'est un besoin de des gens ont besoin de se faire connaître et reconnaître. Pourquoi des labels existent? Des labels existent? Des labels existent parce qu'il y a des mecs de goût qui se sont dit, tiens, j'ai une esthétique, je vais essayer de coller à une esthétique pour mieux faire connaître. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans le collectif, dès que tu sors de l'individu seul qui dit, moi, je suis libre, je fais ce que je veux, tu peux le faire, et c'est formidable que tu le fasses, mais à un moment donné, je veux dire, si tu essayes de signifier des collectifs, d'amener à toi ce que tu fais d'autres gens qui vont eux-mêmes créer et autres, ben, tu créeras des labels, tu créeras des sites internet, tu créeras des logiques, des règles qui seront peut-être pas aussi fascistes que celles qu'on veut qu'aujourd'hui qu'on en a à faire en termes de droit, mais de toute façon, ces règles elles seront peut-être mouvantes, mais t'auras des règles parce que c'est le mode collectif. Quand t'es collectif, tu définis des règles, tu définis des goûts, tu définis des esthétiques.
Et ouais, l'idée, mais on va en venir à, je sais pas, à l'anarchisme.
Non, mais attends, mais dans l'anarchisme, il y avait des, attends, il y avait l'idée de communauté. Il y a l'idée de communauté dans l'anarchisme. Voilà, il y a l'idée de communauté. Je veux dire, trouve-moi une idée, un monde où il n'y a pas une manière de faire vivre des communautés ensemble. Je veux dire, donc de définir les systèmes de goût et de dégoût.
On prend un micro pour faire entendre alors. Ouais, merci. Bon, alors je vais faire la page de plus.
Bon, je pense de toute façon qu'on avait largement amorcé le tour.
Du coup, ça commence à devenir intéressant, quoi. C'est sûr de contrôle et de, pour que tu cherches la reconnaissance et le respect de la création. En fait, c'est ça que on essaie de protéger, quoi. C'est de,
non, t'essayes de te faire connaître, tout simplement. Donc, t'essayes de le faire par des communautés de gens proches. Donc, tu te retrouves, tu dogmatises.
Et on veut se faire connaître de qui, pourquoi. Bon.
Voilà, bah, je crois qu'on va clôturer ce débat puisque le temps a bien avancé.
Et puis apparemment, on entend hors micro derrière, il va y avoir un truc de 10 minutes entre ça et le gourde pour enfants.
Merci, donc. Merci à tous donc d'avoir. Vous voyez qu'on on est sur plein de pistes différentes, mais finalement, il me semble que tous ceux qui ont prôné la synthèse de toutes ces différentes initiatives, ça me semble être une bonne chose. Partir en tout cas sur une idée positive que effectivement, même s'il y a des choses très différentes, il y a une idée de base qui est quand même assez plaisante et assez radicale malgré tout. Tu voulais faire une dernière remarque,
ouais, juste un tout petit mot, justement pas pour conclure. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas de l'ordre des querelles de chapelle. Pour moi, c'est des visions du monde qui sont différentes. Il y en a peut-être une qui est un peu plus naïve dont je me réclame. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, le débat fait que commencer, quoi. Je suis là et peut-être terminé, mais pour moi,
tant mieux.
Le débat est continué.
Et c'est exactement ça. Tant mieux.
Oui, je voulais juste demander, parce que là, si je comprends bien le thème de ce rassemblement, là, c'est les arts libres, donc en particulier. Non, mais de ce rassemblement, de cette réunion-là, c'est les arts libres, donc il me semble que c'est vraiment lié aux licences libres. Donc je voulais que tu rappelles un petit peu le site, là, donc tu nous as dit le nom tout à l'heure que j'ai même pas retenu, que tu nous l'appelles peut-être, le nom du site internet, pour ceux qui veulent aller se documenter sur qu'est-ce que c'est qu'une licence, qu'est-ce que c'est qu'une licence libre en particulier. Alors, je pense que c'est un petit peu au cœur du débat.
Oui, alors il y a différents sites dont on est parlé. Il y avait le site de la licence art libre, c'est artlibre.org, artlibre.org. Creative Commons, les autres licences, c'est creativecommons.org. Music, c'est dogmazic.net, dogmazic. Veni Vidi Libri, tout attaché aussi.
Donc, c'est Veni Vidi Libri, c'est du très mauvais latin pour dire je suis venu, j'ai vu, je me suis libéré. Donc, Veni, V-E-N-I, Vidi, j'ai vu, Vidi, V-I-D-I, et Libri, L-I-B-R-I. Pareil.org.
Et puis diogène.ch, et puis donc le site. Mais de toute façon, il y a des liens aussi sur le site Fête du Libre, il y a des trucs.
Bien, merci.